Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Jeudi, deux pétroliers, l'un norvégien, l'autre japonais, ont été touchés par des explosions en mer d'Oman. Dans la foulée, le président américain a explicitement accusé l'Iran d'être responsable de ces attaques, même s'ils n'ont pas été revendiqués, qu'il est encore difficile de savoir précisément ce qui s'est passé. Depuis plusieurs semaines maintenant, les tensions se sont accrues en mer d'Oman. Pour quelles raisons? Pourquoi cette région du globe en particulier? Bonjour Didier Billon, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, auteur notamment de géopolitique des mondes arabes. Il faut tout d'abord nous situer la mer d'Oman et nous dire quelle est son importance stratégique.
Importance absolument considérable puisque c'est une mer qui se situe au sortir du golfe Persique, c'est-à-dire au sud du détroit d'Ormuz, dont nous savons qu'à peu près 30% du commerce de pétrole par lequel transite ce pétrole. Et donc, c'est ensuite l'ouverture vers l'océan Indien, c'est-à-dire des pays aussi importants que le Pakistan, l'Inde et plus loin la Chine. Donc c'est évidemment un lieu où les enjeux géopolitiques revêtent une importance tout à fait fondamentale, bien que peu connue par les Français en général.
Que sait-on sur ce qui s'est produit, Didier Billon? A-t-on des certitudes?
Non, aucune certitude, comme vous le rappeliez, c'est-à-dire qu'immédiatement et de façon un peu pavlovienne, les autorités aux États-Unis ont indiqué qu'ils considéraient les Iraniens comme responsables. Pour leur part, ceux-ci, de façon tout aussi pavlovienne, se sont mis dans une position de dénégation. Et ce qui me paraît très important, c'est que la fameuse vidéo qu'on a pu regarder...
Oui, parce qu'en fait, c'est elle qui sert de preuve aux États-Unis.
Alors, moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste de l'analyse des images.
Alors, sur cette vidéo, on voit une vedette iranienne.
Voilà, on voit une toute petite vedette iranienne qui vient s'accoster le long du pétrolier. Et on voit un des hommes qui se trouve sur la vedette en train d'essayer d'enlever quelque chose ou de poser quelque chose sur la coque. Mais c'est flouté, c'est très difficile à analyser. Alors, évidemment, les Américains ont dit que c'était une mine qui avait été collée, c'est-à-dire des mines à aimants qui auraient pu être collées. Ce que j'ai entendu, c'est que l'armateur japonais de ce pétrolier, lui-même, a totalement produit une autre version. C'est-à-dire qu'il a dit que son équipage avait entendu un bruit d'un aéronef, alors drone, avion, on ne sait pas très bien, qui aurait pu attaquer aussi ce pétrolier. Donc les simples faits sont soumis à diverses interprétations ou diverses explications, ce qui me laisse quand même un peu dubitatif.
Dubitatif, c'est-à-dire vous pensez que ce pourrait être un autre pays que l'Iran?
Tout est possible. Tout est possible et personnellement, je considère qu'aujourd'hui, et on le serait à moins, les dirigeants iraniens sont extrêmement inquiets et je ne vois guère l'intérêt qu'ils auraient à vouloir, si vous me passez l'expression, rajouter de l'huile sur le feu. Pour le coup, l'image est un peu exacte. Alors, bien sûr, nous savons qu'au sein de l'appareil d'État iranien, il y a des gens qui veulent en découdre, qui se sont toujours opposés à l'accord sur le nucléaire de 2015, qui sont dans une posture de refus de toute discussion, tout compromis avec les États-Unis. Mais je constate néanmoins que si la situation se dégrade de façon très préoccupante depuis plusieurs semaines, ce n'est pas l'initiative des Iraniens, mais plutôt des États-Unis, suite à la dénonciation par Donald Trump, il y a maintenant un peu plus d'un an, de l'accord sur le nucléaire. Et en outre, pour rebondir sur votre question, il y a dans la région des États tels les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Israël, qui eux aussi ont toujours combattu l'accord nucléaire de 2015 et qui pourraient avoir un intérêt à faire monter les tensions pour amener les Iraniens à récipiscence. Donc tout est possible, évidemment je ne possède aucune information particulière sur ces sujets, mais essayons d'avoir une vision d'ensemble et de trouver des clés politiques.
Une hypothèse, là aussi, qui a été entendue, mais bien entendu, où il n'y a absolument aucune preuve qui viendrait l'étayer à ce stade, ce serait la possibilité qu'au sein du pouvoir iranien, il y ait plusieurs factions et que l'une d'entre elles soit plus bout de feu que les autres.
Oui, incontestablement, l'appareil d'État iranien est un appareil d'État infiniment complexe, recelant des luttes de fractions et de factions terriblement difficiles à décrypter. Mais ce que je pense, c'est que l'Iran est un pays qui a connu la guerre. C'est encore inscrit dans les mémoires vives, si je puis dire. C'était la guerre contre l'Irak, entre 1980 et 1980.
Terrible guerre.
Terrible guerre. terrible guerre. Et quand vous allez en Iran, il n'y a pas un seul village, pas une seule ville de petite ou de grande importance, que partout sur les places publiques, etc., il y ait ces monuments avec des photos des martyrs. Donc il y a cette mémoire très vive et je pense que, évidemment, les radicaux ne sont pas toujours dotés de la même rationalité que nous, c'est un fait, mais en même temps, je pense que les Iraniens prient globalement, et au-delà même des luttes de fractions qui sont terriblement difficiles et dures et vives, je ne crois pas qu'il y ait une volonté d'en découdre. Et puis il y a quand même une analyse du rapport de force. L'Iran est un grand pays, incontestablement, mais d'un point de vue militaire, pas en situation de résister très longtemps à une véritable agression.
Mais Didier Bignon, qui contrôle cette zone, autrement dit cette mer d'Oman au sud-est du détroit d'Ormuz?
Si je veux être un peu réducteur, voire provocateur, je dirais que ce sont les États-Unis. Nous savons qu'il y a une présence des États-Unis importante, bien évidemment, qui s'est d'ailleurs renforcée au cours des dernières semaines. Il y a notamment un porte-avions qui a été transféré sur zone. Il y a un navire porteur d'hélicoptères, de véhicules amphibies, etc., qui a aussi été transporté sur zone. Donc, ce sont fondamentalement les États-Unis qui ont la meilleure maîtrise. Mais évidemment, l'Iran est sur place, ainsi que les États arabes du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, et surtout les Émirats, qui eux aussi ont leur mot à dire. Mais incontestablement, les rapports de force, d'un point de vue strictement militaire, sont en faveur des États-Unis. Mais on sait que la guerre n'est pas seulement une question d'opération militaire.
Au fait, ce détroit, c'est 30% du transport du pétrole mondial, c'est
oui,
ça?
Oui, absolument.
Pourquoi est-ce aussi important? Pourquoi 30% ça suffit à, en cas donc de problème comme ceux que l'on rencontre, faire craindre le pire en matière de cours du pétrole, Didier Bignon?
Mais ce qui est très intéressant, imaginez que un tiers du pétrole ne puisse plus passer par le détroit d'Ormuz.
Bon, vous n'en est pas là.
On n'en est pas là du tout, bien évidemment, bien, et heureusement. Mais imaginons que même pendant quelques jours, voire plusieurs semaines, il y a un blocage. 30%. Et donc ce sont tous les marchés occidentaux, avides de pétrole et qui ne possèdent pour la plupart d'entre eux pas de pétrole, qui seraient dans une mauvaise situation. Qu'est-ce que cela signifierait? Bien sûr, une hausse des prix du pétrole.
Une hausse de quel ordre? Parce que bon, là, pour l'instant, cette hausse, elle est insignifiante. Alors, elle nous coûte très cher à la pompe.
Oui,
mais 4%, c'est pas un...
Non, mais c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en réalité, les marchés pétroliers semblent au contraire vouloir calmer le jeu, ne pas montrer de signes d'inquiétude, voire d'affolement. Et donc, ça me prouve plutôt qu'au global, au final, il y a plutôt une volonté générale de ne pas parvenir à l'extrémité suprême, c'est-à-dire la guerre. Ceci étant, nous ne sommes pas à l'abri de provocations, qu'ils viennent des Iraniens, qu'ils viennent des États-Unis ou d'autres puissances régionales. Donc, on est dans une situation où tout peut se dégénérer et tout peut s'enclencher rapidement, malheureusement. Et c'est bien là l'enjeu, c'est qu'il est très difficile de faire des pronostics un peu viables, mais dans l'ensemble, on peut considérer, de mon point de vue en tout cas, qu'aucune puissance d'importance ne veut véritablement découdre, mais nous savons qu'il y a des factions guerrières. En Iran, certes, aux États-Unis, on voit bien qu'il y a deux lignes au sein de l'appareil d'État aux États-Unis, que Trump est tout à sa stratégie de pression, mais qu'il est poussé dans ses retranchements par John Bolton ou Mike Pompeo.
Didier Bignon, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS et auteur notamment de Géopolitique des mondes arabes. 7h21 sur France Culture.